Alors oui, je suis là et j'écoutais votre cours que M. Trancard a eu la très gentille idée de mettre sur le, en ligne. Oh là là. Il a dit je ne pouvais pas venir et c'est pour ça que j'étais déconnecté, comme vous l'avez dit pendant le cours.
Même c'est Trahi Meir qui l'a mis en ligne.
Alors, M. Béroni.
Ah,
c'est là aussi?
Ah,
oui, c'est... Tu peux pas parler? C'est un des niveaux ou quoi?
Monsieur Trancard a eu la très gentille.
Alors, je sais pas. Je préfère. Bon, ben, si il est là, il est là. Ma tête, quoi. Je vois rien, mais. Je ne vois pas.
Mais pas Rami, mais c'est Rami. Mais...
Bon, ils sont là. Vous êtes là, c'est bon. Je vous vois pas, mais. Ok. Donc, les Luchot, c'est Maase Elohim. C'est l'œuvre d'Elohim. Et Rabbi Yoshua dit, à chaque jour, il y a un écho qui sort du Sinaï. Et qui dit, Oh, il aime la briot, mais el bona shel Torah. Malheur aux créatures pour la négligence de la Torah. Chez Kolmi, chez Eno Osek Batorah, tout celui qui ne s'occupe, chez Eno Osek Tadir Batorah, tout celui qui ne s'occupe pas en permanence de la Torah, a résé Nizouf la Kadosh Baruch Hu. C'est comme si on faisait honte à Kadosh Baruch Hu. Shenema, ve'aluchot ma'ase Elohim, hema. D'où est-ce qu'on le sait? Puisque les luchot sont ma'ase Elohim, et donc si on s'en occupe pas, c'est un nizouf, c'est faire injure à Kadosh Baruch Hu. Charut ala luchot, gravé sur l'écriture est gravée sur les tables. Mahu charut, qu'est-ce que ça veut dire gravé? Yehuda v'Rabbi Yirmiyah v'Rabbanan, trois opinions. Rabbi Yehuda Omer, al tikri charut ela cherut min hagaluyot. Ne lis pas charut, mais cherut, libération des exils. Rav Nechemia Omer, cherut mi malach hamavet. Lui aussi, il ne lit pas charut, mais cherut, libération de la mort. Enfin, de l'ange de la mort. Verabotenu omrim, cherut mina isurim. Libération des épreuves, des souffrances. אמר רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אם יבוא מלאך המוות ויאמר לפני הקדוש ברוך הוא על חינם בראתני בעולם וסיל מלאך המוות יביין שהקדוש ברוך הוא יודעים את מה קרה פוריה לטו שפלו את בולו לבני ישראל סון ליברי דו מלאך המוות אז הוא אומר על כל אומה שבעולם השלטתי אותך חוץ מאומה זו שנתתי לה חירות. Alors il lui dit, mais je t'ai laissé le pouvoir sur tous les pouvoirs, sur tous les peuples du monde, sauf sur celui-là auquel j'ai donné la liberté, je l'ai libéré de toi. Et c'est ça, charut al haluchot, c'est ça le charut al haluchot, gravé sur les luchot, ça veut dire libéré du malach hamavet.
Oui.
L'ange de la mort. Donc la mort. Pardon? On verra. Vayaraham ki boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe ne revenait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi boshesh? On lit comme si c'était écrit Baou shesh shaot velo yarad. Les 6 heures ont passé et il n'est toujours pas descendu. Lama, pourquoi? Chez Hitna Imaem, le même yom. Il a fait un tnaï avec l'Ebné Israël et il leur a dit pour 40 jours. Le même yom animé vilachem et à Torah. Dans 40 jours, je vous amène la Torah. וכיוון שבאו שש שעות ולא ירד משה, מיד, et comme les 6 heures ont passé, Moshe n'est toujours pas arrivé, ויקהל העם על אהרון. Le peuple s'est rassemblé contre, enfin sur Aaron. On va s'arrêter là parce que ça a l'air d'être toujours dans la même lettre, là, mais curieusement, on parle un peu de tout, quoi. Alors. Pardon ? C'est jusqu'à la fin.
Je n'ai pas compris le passage à l'ange. Il dit, tu peux lire les routes
ouais,
de cette façon-là, de cette façon-là, et tout d'un coup,
parce qu'il avait dit, alors reprenons.
Ouais.
Ces trois rabbanim, là, Rabbi Yehuda, il a dit, « Al-Tikre Charout, ne lis pas Charout. » Alors, en fait, ils vont tous lire, c'est tout le monde va dire comme ça, « Ne lis pas Charout, qui veut dire gravé, mais lis Cherout. » Cherout, c'est libération, liberté de... Alors, un dit des Galouyot, des exils. Rabbi Nechemia, il dit, « Cherout mi malach hamavet, la libération par rapport au l'ange de la mort. » C'est-à-dire, l'ange de la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et les rabbanim disent, les rabotés, nous, nos maîtres disent, Charout mina isurim. Ça veut dire, on est libéré des souffrances, en fait. D'abord, le Hetz Yosef, il dit sur Oilaem la briotte, malheur aux créatures de la, à cause de la négligence de la Torah, lui dit, Otan tsarot ou xerot raot, abaim ala briot, les ennuis et les douleurs, les mauvaises choses, qui viennent sur les créatures, qui frappent les créatures, baot laem el bona shel Torah. Leur viennent parce que de la négligence au niveau de l'étude de la Torah.
C'est pas...
Et il dit, un instant, on vient tout de suite. Et il dit, et de quoi on parle ici, c'est derech machal, c'est une parabole. Le fiché à Torah nitna be'ar chorev, chez Ouar Sinai. La Torah elle a été donnée au Ouar Sinai. Ou que chez Israël, enam oskim batorah, et quand les ministres ne s'occupent pas de Torah, tzarich chez Yachshov Adam, chez Har Chorev Beatzmo Machriz, v'omer oy laem la briot me'el bona shel Torah. Il faut considérer que c'est le Sinaï lui-même qui crie. Malheur aux bnei Israël, malheur aux gens qui s'occupent pas de Torah, ceux qui, donc c'est lui qui, comme on l'a reçu au Sinaï, le Sinaï est en quelque sorte vexé qu'on ne s'occupe pas de la Torah, qu'il nous a donné en quelque sorte le fameux Moshe Kibel Torah mi Sinaï, comme si le Sinaï lui avait donné la Torah. Bier et Ra'atam, ve'amar shekol mi she'eno osek tadir ba Torah nikra nizuf. Et donc lui il précise que cette injure qui est faite à Hachem, si on ne s'occupe pas de Torah. El bonash el Torah, c'est quoi? La négligence. Shem olvim ota, ven marchivim ota, lasogba. Parce qu'il la méprise, il ne la considère pas comme suffisamment importante pour s'en occuper. Pour ne pas s'occuper de Torah, c'est considérer que la Torah est pas, elle vaut pas que je m'en occupe. C'est-à-dire, comme c'est marqué au début de Shmuel Rabati, du Midrash sur Shmuel, on dit, « Ose torato itim, mefer brit. » Celui qui fait qu'il étudie la Torah de temps en temps, comme ça. Alors c'est comme s'il niait l'alliance. Umat inokaze, mevakesh leechol bechol shaot hayom, kach adam tzerich liot yagea batorah bechol shaot hayom. Il faut considérer que c'est comme si, comme un enfant qui a besoin à tout moment, il a besoin de manger. Un bébé, il doit téter à tout moment. Les Bnei Israël doivent aussi s'occuper de Torah à tout moment, à tous les moments.
Le lachon de Yagia, c'est fatigué, non?
Pardon?
Le lachon de Yagia, la Torah, c'est fatigué ou pas?
Yagia, oui, Yagia. Le Veigita Boyama Balaila. Oui, mais je pense que c'est la même chose quand même.
D'accord.
C'est Yagéa, ça veut dire. C'est sûr que ça veut dire épuisé, ou ça veut dire.
C'est
un mal, quoi, un mal à Torah.
Et ce Rachout, il est dans le Pasouk ou
c'est... Oui, à Khorev, oui. Comme c'est l'œuvre d'Elohim, donc ne pas s'en occuper, c'est comme si on disait que ce que fait Elohim n'a pas beaucoup d'importance. Quand ça remonte, c'est ça l'injure qui est faite. Ce que tu fais ne nous intéresse pas vraiment. Normalement, quand il dit que c'est un bat-col qui sort de là-bas, ça veut dire c'est un écho qui vient de la montagne elle-même. Parce qu'il a expliqué que on a l'impression, quand vous avez un écho, vous avez l'impression que ça vient de l'endroit de la réverbération, ça vient de l'endroit, pas de l'émetteur direct, mais ça vient. Donc ici, on dit que c'est un bat-col. Donc du coup, ça se présente comme si c'était le Sinaï lui-même qui parlait, puisque Hachem a parlé au Sinaï. Donc le Sinaï a répercuté en quelque sorte. C'est pour ça une explication de Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. La voix qu'il entendait, c'est la voix qui semblait provenir du Sinaï, comme un écho du Sinaï, puisqu'il ne savait pas qui parlait. Enfin, c'est Hachem qui parle, mais ça se donne comme si ça venait du Sinaï.
Oui, il l'a matérialisé de certaine façon.
Oui, on a l'impression que ça vient de là. Bon, mais ensuite, le reste... C'est une dracha en continu sur tout le reste du verset, quoi. Les louchotes sont faites, ben c'est Elohim, c'est Elohim qui a écrit, et il a écrit, c'est Charout à la louchot. Le contenu est gravé sur les tables.
Pourquoi on dit Massé Elohim et pas Massé Hachem?
C'est sûr que toutes les Xerox-Koshot, les
Roros... Attendez, il est là, Vélomique est là?
Oui, je suis là. Oui. Je suis là. Vous m'entendez?
Eh oui, je t'entends. Bon, ça recommence un peu. Laisse tomber. Hein.
Non, les Xerox viennent parce qu'on n'a pas assez... Vous voyez?
Voilà. Alors ensuite, donc trois opinions sur Charout. Alors qu'est-ce que c'est ces trois opinions? Si on regarde, c'est on ne va pas en exil, on ne meurt plus et on ne souffre plus. Donc, en fait, comme c'est marqué dans le pasouk, Harut al haluchot, normalement, ça aurait dû être marqué Harut baluchot. C'est gravé dans les tables, pas sur les tables. Alors, puisque c'est al, alors ils ont compris que ça voulait libérer au sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous libère? C'est les luchot. Le fait d'avoir reçu les luchot, de s'occuper du contenu des luchot, nous libère de... Alors, chacun donne son explication. Un dit, on va pas être en galoute, réduit en esclavage. Par la mort, c'est... Si on fait pas de faute, normalement, on devrait pas mourir. Et c'est... Si on meurt pas, alors à quoi servent les... À quoi sert la paracha de Yiboum et la paracha de l'héritage? Si les gens ne meurent pas, alors il n'y a pas la mitzvah d'Yiboum si personne ne meurt. Et on n'a pas de problème d'héritage. Donc, et alors, la réponse qu'on donne, c'est que ces mitzvot-là, enfin, ces sujets-là, ils ont été donnés à l'tnaï. Ils ont été donnés sous condition. Si jamais vous ne vous occupez pas de Torah, alors il y aura la mort, il y aura l'exil, il y aura etc. Et donc vous avez besoin d'alachot d'héritage et de la mitzvah d'Iboum. Ils ont accepté la Torah, alors tout le monde a guéri de tout ce qu'ils avaient, de toutes les souffrances, et tout le monde a guéri au Sinaï. Donc si on continue de s'occuper de Torah, on aura de nouveau cette situation où on va guérir, donc on n'aura plus les... Il n'y aura plus de souffrance, en fait.
Il me semble là que le Midrash parle du moment où les Hébreux reçoivent la Torah. Et déjà, à ce moment-là, donc l'écho du Sinaï dit non, mais alors, ils viennent de le recevoir. Ou alors ils sont en train de le recevoir. Et déjà, l'écho renvoie non, mais vous n'allez pas vous en occuper assez. Donc vous aurez la mort, vous aurez les souffrances, vous aurez ceci. Donc on a l'impression...
Au contraire, c'est très bien. C'est ça le tnaï. Ouais. C'est-à-dire que c'est sous condition. Mais au moment du Sinaï, ouais, c'était donné avec condition.
C'est une histoire de fou, parce que là, on reçoit la Torah, et déjà, la sanction vient en disant, vous n'allez pas vous en occuper.
C'est quoi, c'est bien, vous faites bruit comme ça?
Comment? Oui, c'est pas bien.
Hein?
C'est un appareil électronique, ça.
Ah, c'est le frigo, le petit frigo. Poussez-le, fermez-le. Pas le frigo, le petit congélo.
Ça y est, il a trouvé le petit frigo.
Je me suis trompé, c'est le congélo.
Oui, enfin.
Non, c'est très bien comme vous dites. Parce que ça veut dire que au Sinaï même, quand on a reçu la Torah, dans l'écho, la Torah, elle a été donnée sous condition. C'est-à-dire, je vous donne la Torah, si vous respectez la Torah, si vous étudiez, vous occupez de Torah, alors vous serez libéré de tout ça, et sinon, Sinon, ben, vous ne serez pas libéré. Sinon, ben, le Elbon, toutes les Tsaroth viendront de ce que vous n'êtes pas occupé de Torah.
Toutes les Tsaroth, c'est...
Tous les ennuis, toutes les douleurs, toutes les...
Mais je croyais que le Gaon, il avait une autre vision de ça. C'est que c'était pas une... Que les Tsaroth n'étaient pas la conséquence de quelque chose, mais le fait qu'on ne sache pas lire. Non, je colle à mauvais, c'est pas la bonne chose.
Oui, ben, si vous voulez, le Gaon, il expliquait quand dans la Gemara on dit qu'il faut. Quand viennent des souffrances, il faut essayer de savoir d'où elles viennent. Quelle faute j'ai fait pour avoir cette sanction. Et quand on dit, mais j'ai pas trouvé, alors on dit, ben, il faut, tu peux te dire que c'est probablement que tu n'as pas suffisamment étudié la Torah. Alors le Gaon dit ici, c'est pas une sanction parce que tu n'as pas étudié la Torah. C'est pour ça que tu n'as pas trouvé. Tu as cherché et tu n'as pas trouvé parce que si tu avais étudié plus la Torah, alors ton imagination se serait développée et tu aurais pu trouver en quoi la faute machin chouette que tu as faite, elle peut avoir cette conséquence-là. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Mais que, si tu connais pas, si tu n'as pas bien compris exactement ce qu'est la faute, alors tu ne sais pas ce que tu as vraiment fait mal, donc tu ne peux pas savoir, tu n'arrives pas à te dire, mais ce truc-là viendrait de telle et telle faute, donc tu ne sais pas.
Mais est-ce que la faute, c'est forcément de ne pas s'occuper assez de la Torah ?
Non, la faute, c'était que tu ne sais pas pourquoi cette sanction-là t'arrive, si tu ne sais pas pourquoi ça vient, ça vient de ce que tu t'es pas assez occupé de Torah. Mais la faute, elle peut être à cause de Shabbat ou à cause d'autre chose aussi. Mais ici, il dit autre chose. Ici, le Midrash, lui, il dit que tout vient uniquement de l'étude de la Torah. C'est pas seulement, mais on peut aussi dire que toutes les fautes, elles viennent de ce que tu n'as pas suffisamment étudié. Si tu avais suffisamment étudié, tu ne ferais pas de faute. Parce que si tu avais suffisamment étudié, tu aurais compris combien que ce n'est pas ton intérêt de faire la faute, combien ce qui t'est prescrit est adéquat pour toi. Tu ne vas pas te mettre... C'est contre-productif de faire des fautes. Donc finalement, on peut dire que quand tu ne t'occupes pas suffisamment de Torah... Ultimement, on peut tout ramener au fait de ne pas s'être occupé suffisamment de Torah. Est-ce que le Gaon dit, c'est non seulement ça, mais en plus, même l'explication, elle aussi, tu peux la ramener au fait que tu n'étais pas occupé suffisamment de la Torah.
Et les Massimdolim, donc les scrupules qu'on peut avoir, est-ce que ça peut rentrer aussi en Iman ou pas? Est-ce que ça peut être aussi une source, une raison?
Pour les tchouas, on a des ennuis parce qu'on a fait des mitzvot.
Non, ça peut. Là, on dit que le fait de pas suffisamment étudier la Torah, ça va générer ces trois choses. Hein. Mais bon, souvent, on fait parallèle entre Torah et Massim Tovim. Alors, quelle est la place de Massim Tovim
Massim Tovim, c'est en fait, qu'est-ce que c'est les Massim Tovim? C'est d'avoir compris ce que la Torah elle voulait. Et de l'avoir mis en acte. Alors on veut dire, il y a la Torah qui est l'étude elle-même, et puis cette étude, elle débouche aussi sur des Maasim Tovim. Parce que si quelqu'un il étudie, etc., mais si quelqu'un il étudie toute la soirée de Pessah, la signification des matzot et tout ce que tu veux, mais il mange pas de matzot, c'est pas ça, quoi. Ça suffit pas. C'est-à-dire que, bon, finalement, je me suis imprégné, j'ai tout compris de ce que les matzot doivent... Mais la Torah, elle a dit, en plus, je veux que tu fasses ces gestes-là. C'est pas ces gestes-là. Peut-être ton corps, il a besoin que les gestes soient faits. dans ta tête, c'est parfait, mais c'est peut-être pas suffisant, ça n'impacte pas ton corps, suffisamment ton corps, peut-être.
C'est pourquoi, pour faire une petite parenthèse, pourquoi peut-il impacter aussi le corps ?
Le corps, il est partie prenante dans tout ce qu'on fait. Toutes les mitzvot se font avec le corps. Donc il faut aussi impacter le corps pour qu'il puisse... il faut que le corps, il a... Parce que la matérialité du corps, si on veut, elle doit être affectée par du matériel. Le spirituel ne suffit pas pour travailler le corps, probablement. Alors ici, bon, ce qu'on nous dit, c'est je comprends pas très bien l'ordre. Il y a le galouyot, après Malacham Avet, et après les Issourim. On aurait dû dire galouyot, Issourim et Malacham Avet, non?
Pourquoi?
Le galout, c'est... La galout, c'est... Tu meurs pas, bon, tu... Tu n'es pas chez toi, tu es peut-être réduit en esclavage, mais bon, tu survis et c'est comme si on disait les galouillottes, c'est ce qui nous empêche de faire les choses comme on devrait les faire. C'est-à-dire que nos actes n'ont pas l'impact qu'ils devraient avoir parce qu'on n'est pas chez nous, parce qu'on n'a pas les éléments, tous les éléments. Puis après, il y a la souffrance aussi, nous empêche de... Elle nous prend de l'énergie, et, etc. Et puis après, le summum, c'est la mort.
Et c'est des formes de mort différentes. Quoi.
Oui, mais dans la gradation, j'aurais dit... Ouais. Dans la gradation, j'aurais dit Galout Issourim Mavet, et pas Galout Mavet Issourim. Oui, ça c'est pas seul. Être Osek Batora, ça veut pas seulement dire éternel. Osek Batora, faire son affaire de la Torah, ça veut pas seulement dire étudier. Ça veut vraiment faire son affaire. Quoi.
On a l'impression que c'est le fait qu'on fait son affaire, on la prend en main, c'est condition pour que ce soit une Torah de liberté et de vie.
Oui, ça c'est juste.
Ça ne reste pas, comme on dirait, c'est d'être à, morte. Quoi.
C'est à tout moment aussi.
Oui. Mais peut-être que le à tout moment, je ne pense pas qu'il parle uniquement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est dans sa grotte et il s'occupe de Torah. Rabbi Ishmael, dans la fameuse machloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael, il dit, vous vous souvenez, la Gemara dans Brachot, elle dit comme ça, elle dit, c'est Rabbi Shimon, il dit, Si tu te mets à labourer, à semer, à récolter, etc., quand est-ce que tu vas l'emmener?
Quand
tu vas étudier.
Oui.
C'est un full-time job d'agriculteur. Alors, donc, on ne peut pas commencer. Et on peut pas faire ça à moitié. Donc, il dit, il ne faut pas s'en occuper. S'occuper que de Torah. Étudie la Torah et... t'occuper de rien d'autre. On verra. Les choses s'arrangeront d'une manière ou d'une autre. Tu accepteras aussi ce qui viendra, mais... Okay. Alors, Rabbi Ishmael, il dit non. Anek Baem Inak Dereret, ça veut dire tu vas t'occuper de faire tout ça, de labourer, de semer, etc. Mais tu vas diriger tout ça avec les Divrei Torah. C'est-à-dire, en fait, quand tu vas labourer, oui, alors, il y a des halakhot pour labourer. Tu ne peux pas labourer avec Shor v'chamor v'yachad, tu ne peux pas mettre un âne et un bœuf ensemble. Il y a des comment tu vas labourer, etc. Après, comment on sème, tu peux semer n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc, il y a sans arrêt des halakhot. C'est pas... Et donc, si tu vas jusqu'au bout de ce que disent les halakhot, si tu réfléchis sur le pourquoi de ces halakhot, alors, t'es sans arrêt en train de les remettre, en même temps que tu fais les choses. Donc, ça veut dire, ça te donne quand même un plus, parce que ça donne une autonomie. Finalement, tu gagnes ta vie et t'as pas arrêté d'étudier aussi. Alors, t'es pas en train d'étudier devant un livre, mais t'es en train de... Alors tu me diras, pour faire ça, il faut avoir étudié un moment. Oui, d'accord, il y a des moments dans la vie où il aurait fallu étudier, il faut étudier pour être capable par la suite. Bon. Et puis à part ça, tu peux aussi étudier la nuit, on fait pas le boulot de dans les champs, donc surtout pas à ce moment-là. Donc il y a des tas de moments où tu peux étudier, il y a des moments des saisons où tu as beaucoup plus de temps pour étudier. Alors, si tu étudies, de telle sorte que tu puisses en vivre, en quelque sorte, en permanence. On raconte que le Briskerov, je crois que tu l'as raconté une fois, le Briskerov, son père était aussi le Rav de Brisk, quoi. Et quand il était jeune, son père, sans arrêt, il l'envoyait pour toutes les missions. Ils avaient bien le téléphone, mais les gens auquel il fallait aller parler, ils n'avaient peut-être pas le téléphone. Et bon, il fallait aller s'occuper de celui-là, etc. Donc, il l'envoyait tout le temps, son fils. Donc, son fils, il n'avait pas beaucoup de temps d'étudier. Mais, quand c'était Shabbat, son fils est en train d'étudier, lui, son père est en train d'étudier aussi. Et le père, il interrompt son fils qui est en train d'étudier. Il dit, tu peux passer le sefer qui est là-bas? Bien sûr, il va, son père. Son père, il amène le sefer à son père. Son père, il dit, t'as continué de l'ernen pendant que tu es allé chercher le sefer? Alors, il a raconté, le Briskerov, qu'il était furax, quoi. Mon père, il n'a pas autre chose que me faire faire des petits jeux, comme ça, pour voir si j'étudie. Et après, il a dit, mais j'ai compris que si on n'étudie pas à ce moment-là aussi, on ne peut rien faire. Il faut étudier. Il n'y a pas de raison. En marchant, tu peux étudier aussi. Tu peux continuer de réfléchir à la chose. Et pas. L'idée, c'est pas parce que tu vas chercher un sefer que tout le long du chemin, tu dois penser au sefer. Quand tu seras devant la bibliothèque, tu prendras le sefer et tu le ramèneras. C'est tout. Et maintenant, entre-temps, tu peux réfléchir à ce à quoi tu étais en train de réfléchir avant. Et donc il disait que c'était ça que son père voulait lui enseigner. C'était pas un truc. Donc là, je pense que c'est ça le. Il me semble que c'est ça que dit Rabbi Ishmael quand il dit que Anek Bahem Minak Deheretz, c'est-à-dire dirige avec les Divrei Torah le fait qu'il faut s'occuper de Deheretz. Ça veut dire il faut gagner sa vie, il faut. Alors, on dit, oh, c'est pas toujours comme ça, il y a des situations où on peut pas, bon, quand tu peux pas, tu peux pas. Tout le problème, c'est quand tu peux, même si c'est très très peu de temps, il faut le faire. Il y avait un. On m'a raconté que. Enfin, il nous a raconté que, à Kelm, c'était un grand centre de Moussard, il y avait un CDR, pratiquement au milieu de la nuit, de 5 minutes. Les types, ils arrivaient en tenant leur pantalon, etc., pour 5 minutes, il fallait étudier, et puis après, tu ne pouvais pas rester, il fallait retourner te coucher. Il faut comprendre que... sais pas s'il faisait Birkat HaTorah à ce moment-là ou pas. Enfin, bon, ça c'est une question de brisqueur. C'est la question. Mais bon. Non, c'est cette idée de ne pas perdre de temps, quoi. C'est étudier, réfléchir en permanence.
Pas forcément faire de la Gemara.
Non, c'est, mais ça peut être sur la Gemara. Par exemple, le Rav Volbe, il disait qu'il faut un midrash ou un sujet, il faut le porter en soi. Bon, le midrash, ça ne s'étudie pas comme nous on fait réellement seulement. Voilà, on a un préfusion. On étudie, puis ensuite on le porte en soi une semaine, deux semaines, 10 semaines, longtemps, et on le confronte avec. Automatiquement, il se confronte avec tout ce qu'on entend, etc. Et il devient vivant, il devient une partie de nous-mêmes. Comme ça, on avance réellement. C'est comme ça qu'il faut étudier, en quelque sorte, ces choses-là. Alors, bon, il y a un moment où il faut les étudier comme ça, mais après, il faudrait continuer de les porter en soi, d'en prendre un petit morceau et de le porter en soi. Un truc qui est facile à se rappeler, quoi, à la limite. Dans le pire des cas, tu le photographies avec ton téléphone, le petit morceau que tu veux, et tu l'as en permanence, tu peux toujours regarder, vérifier, comment c'est écrit, évidemment, est-ce que c'est comme ça ou pas. Je voulais raconter que mon maître, lui, il était vraiment, il s'en va comme ça. Un jour, on rentrait, j'ai raconté peut-être, un jour, on rentrait Motsei Shabbat, avant, j'étais encore un jeune homme à ce moment-là, on rentrait chez lui pour Avdala, on marchait dans la rue, et il y avait son fils, enfin un de ses fils, le plus jeune d'ailleurs, qui n'était même pas encore bar mitzvah, et il trouvait qu'on marchait pas assez vite, le petit. Il dit, papa, on avance, on s'entraîne, il s'est pris une engueule. Bien. Alors bon, sur cette, le fait que ce ne soit pas dans le... Je me demande d'ailleurs, Rerupi Malacha Mavet. Bon, dans la suite, on a l'impression qu'effectivement, le Malacha Mavet, il va dire qu'il est au chômage. Donc, il n'a rien à faire, là. Mais, je me demande.
Pourquoi il dit qu'il est au chômage?
Ben parce que si t'es venu Israël, ils étudient la Torah, alors pourquoi tu m'as créé? Il n'y a pas de. Hachem lui répond, mais il y a l'égoïme, ça suffit. Tu n'es pas obligé de. Pas obligé de tuer les Israël. Donc on a l'impression que, bon, je ne sais pas si ce que ça veut dire ici, mais ça ne veut sûrement pas dire ça comme ça, mais je me demande si au fond, ici quand on dit qu'on est Charout, mais Malach HaMavet, ce n'est pas le fait qu'on ne meurt pas, c'est qu'on n'est pas préoccupé par la mort. J'ai plutôt l'impression qu'on est libre du Malach HaMavet, pas de la mort complètement. Le Malach HaMavet, c'est celui qui vous fait penser à la mort aussi. Je veux dire, et la mort, c'est la préoccupation de la mort, c'est quelque chose qui ne me permet pas de vivre pleinement. Alors là, c'est peut-être aussi c'est la même chose. Si on veut l'esclavage, enfin disons le Charout Mina Galouyot, ça veut dire, c'est aussi cette idée que on est toujours dans tout ce qui empêche d'être pleinement soi-même. C'est ça que c'est une façon de dire que en fait on est vraiment pleinement soi-même que grâce à la Torah. En fait, c'est en étudiant la Torah, c'est pas quelque chose d'extérieur à moi. Parce que la Torah c'est mon plan. Donc j'ai quelque part je m'étudie moi-même aussi quand j'étudie la Torah et je me donne les moyens d'être ce que je suis pleinement. Alors que si, effectivement, quand on est en galoute, l'idée du galoute, c'est quoi? C'est que, c'est ce qu'on dit quand on dit à Kadosh Baruch Hu, à Ribbono Shel Olam, tu sais bien qu'on voudrait faire ce que tu nous demandes de faire, mais le Shibud Galouyot, le fait que nous soyons en exil et Seor Shibaïssa et le levain dans la pâte, c'est-à-dire Yetzara, nous empêche de le faire. Donc ce qui nous empêche de faire ce qu'Hachem nous demande de faire, ce qui est ce que nous voudrions faire vraiment, un des éléments, c'est justement les Galouyot. Le fait que n'étant pas chez nous, on n'a pas le... On ne peut pas avoir... Si on considère que la terre d'Israël est une terre qui est adéquate pour y vivre selon la Torah, donc c'est-à-dire pour y vivre au maximum de nos possibilités, alors là, quand on est en galoute, ben on n'est pas dans cette situation-là. On ne peut pas vivre pleinement. Et c'est ça, je crois, ça qu'on veut dire, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre ce que c'était que les Luchot. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le galoute, tout ça. Le Midrash, il est intéressé à dire quelque chose sur les Luchot, sur les tables qu'Hachem nous a données. Hachem nous a donné des tables grâce auxquelles, en fait, on peut être pleinement soi-même. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas soi-même? C'est au galouyot, ou la mort, l'idée de la mort qui nous empêche de vivre, quoi. C'est pas la mort qui m'empêche de vivre, c'est l'idée de la mort. Parce que quand je suis mort, je veux dire. Et les sourires aussi. Alors, les souffrances, elles ne permettent pas non plus d'être pleinement moi-même, parce qu'elles me dérangent, parce qu'elles me prennent de l'énergie, parce qu'elles m'obligent à m'occuper de choses dont je voudrais bien ne pas m'occuper. Si je dois s'en aller m'occuper de mes bobos, je veux dire, je ne suis pas vraiment disponible pour être vraiment moi-même, en fait. Alors, je crois que c'est peut-être ça l'idée, c'est... Et du coup... je pense que c'est un crescendo dans l'autre sens. Enfin, c'est un décrescendo. C'est-à-dire, quand est-ce que je peux vraiment pas être moi-même? C'est quand je suis en galoute. C'est vraiment... Je suis pas au bon endroit. Après, l'idée de la mort, elle m'empêche aussi. Mais ça, c'est moindre que... C'est une idée seulement. C'est pas un environnement. Et puis après, il y a les Issourim qui, eux, m'empêchent. Mais bon, il y a des gens qui sont... Les Issourim sont des épreuves, et on peut... En fait, on peut être parfaitement soi-même si on... Éventuellement, on accepte ces Issourim. Si on dit, voilà, je dois vivre avec ça. C'est ça mon problème. Les gens, ils s'imaginent toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est-à-dire, c'est ce qu'on raconte au nom d'un élève de Rabbi Israël Salanter. Il lui avait dit, mais Rebbe, si j'avais ta tête et le cœur de l'autre et la force physique de celui-là, je pourrais vraiment servir Hachem. Alors, Israël lui a dit, Naftali, c'était Naftali, c'est avec ta tête, avec ton cœur, avec ton corps, que tu dois servir Hachem. Les Chassidim, ils racontent la même histoire, hein. Ils racontent l'histoire avec Zouché. On te demandera, quand tu arriveras au Lamaba, on te demandera pas pourquoi tu n'as pas été X, Y ou Z. On te demandera pourquoi tu n'as pas été Zouché. Donc si vous laissez un peu l'idée que nous, on vit, surtout aujourd'hui, on vit dans un monde où on considère, si vous voulez, on s'occupe beaucoup du résultat. Ça veut dire que si je suis face à un problème, l'important c'est de l'avoir résolu. Mais on ne s'occupe pas de ce que peut-être l'important n'est pas tellement de l'avoir résolu, mais d'avoir vécu avec, d'avoir accepté de vivre avec ce problème-là, et d'avoir compris que c'est avec ce problème-là qu'on va s'épanouir. Si j'ai ça devant moi, c'est que c'est comme ça que je vais me construire. Visiblement, sinon ça veut dire que...
Mais ça veut dire qu'il y a une sorte... Si on a un problème, ça veut dire qu'il faut accepter aussi, peut-être d'une certaine façon, la perte, le deuil...
Oui, il faut accepter, ça ne veut pas dire qu'il faut...
De l'idéal, de ce qu'on peut-être c'était...
Oui, mais il faut pas penser obligatoirement qu'il faut le résoudre, le problème. Peut-être on peut... Tous les problèmes ne sont pas solubles. Et, ok, alors le problème, il va rester, et toi, tu vas vivre avec. Et puis, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le résoudre. Si, si on peut le résoudre, alors tu essaies de le résoudre. Mais après, il ne faut pas se dire que finalement, tant que je n'ai pas résolu, je n'ai rien à faire. Non, tu as plein de choses à faire encore. Il faut vivre avec ce problème tant que tu ne l'as pas résolu. Mais c'est extrêmement difficile. C'est difficile.
D'un autre côté, ça ne va pas très bien dans le sens du Midrash. Puisque là, il dit, si tu t'occupes de Torah, comme on l'a exposé, tu ne souffriras plus.
Oui.
Tu n'auras plus de problème.
Oui.
Et là, essayer de comprendre des choses qu'on n'aurait pas comprises.
Mais si on pourrait peut-être répondre à votre question en disant, qu'est-ce que ça veut dire, si tu t'occupes de Torah, alors tu vas pouvoir pleinement t'épanouir. L'étude de la Torah elle-même, par exemple, il y a des situations où le... Comment faut dire ça? Oui. Où le problème, tu as le choix. Ou tu vas le vivre dans ton étude, ou tu vas le vivre concrètement. Par exemple, tu peux imaginer qu'il y a, on parlait de ce que Ilan disait, il y a quelque chose, il faut que quelque chose grandisse en moi. Ouais. Alors, la chose, elle va grandir en moi, peut-être parce que je vais me confronter, etc., et ça va me faire mal, etc., mais je vais grandir. Mais il y a peut-être une autre solution. Peut-être que dans l'étude de la Torah, je peux me poser ces problèmes-là, ce problème-là qui... Et puis je peux grandir par l'étude elle-même. Parce que dans l'étude, on envisage ces problèmes-là. Et la véritable étude, elle consiste à entrer vraiment dans la peau de celui qui a ce problème-là et de regarder, c'est ce qu'ils ont fait les Chachamim. Ils sont entrés là-dedans et ils ont dit, c'est ça le problème. Ok, alors il faut le résoudre de cette manière-là. Et donc, pour répondre à l'objection d'Ilan, c'est pas qu'avec la Torah on souffrira pas, ce serait contradictoire avec le fait que la souffrance me fait grandir. On souffrira pas parce que j'ai pas besoin de souffrir. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a cette idée que même certaines mitzvot, enfin, peut-être que je sais pas si j'ai raison, mais j'avais expliqué certaines mitzvot comme vous souvenez quand on a fait la Gemara Chagiga, on avait beaucoup réfléchi sur le fait que certaines personnes sont dispensées de monter se faire voir et se faire voir trois fois par an à Yerushalayim. La Gemara dans Chagiga. Alors, par exemple, c'est marqué que un aveugle il a pas, ou un borgne, il n'a pas besoin de monter. Ce que j'avais expliqué, c'est pas une sanction, c'est que l'expérience de la, comment dire, l'autre elle dirait borgnitude, d'accord, je sais pas comment on dit, d'être borgne, ça développe en soi quelque chose qui fait que j'ai pas besoin d'aller voir, j'en ai pas besoin de cette mitzvah. Parce que, sinon, pourquoi quelqu'un qui est il a déjà un problème que il est borgne, alors quoi, on va lui dire, tu sais, t'es pas vraiment obligé d'aller à Yerushalayim. Il pourrait l'entendre, ouais, bon, on n'a pas besoin de toi, quoi. On n'a pas besoin de gens qui voient pas bien, etc. Non. Si vraiment il a pris, il vit son, pas sur le mode, pas sur le mode.
Qualifié sans passer par la.
Sans passer par la mitzvah éventuellement. Je me demande si, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une qualification sans passer par cette épreuve.
C'est une qualification sans corps.
Ça veut dire ?
C'est-à-dire que ça reste dans la pensée.
Non, il monte à Yerushalayim, les autres.
Non, mais quand vous parliez des fois d'étudier certains
aspects... Oui, mais ce n'est pas seulement dans la pensée, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le corps au sens... au sens où on aura mal au bras, mais d'entrer dans le problème, ça développe parce que le but de l'exercice, c'est que on en grandisse. Et grandir, c'est pas d'avoir du muscle.
C'est un peu comme un vaccin. C'est-à-dire qu'on touche un peu le problème,
intellectuel, plus qu'intellectuel, vous rentrez dans le sujet, vous...
En fait, l'empathie, quoi.
Oui, bien sûr. L'empathie. Maintenant, vous n'allez pas aller jusqu'à souffrir comme la personne...
Mais la souffrance, elle n'est pas nécessaire. La souffrance, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. Oui. La souffrance en elle-même... La souffrance est un moyen
d'arriver à quelque chose, et donc on
et, quand, et si je peux arriver autrement,
on parle d'un autre moyen, donc, qui serait l'étude,
oui,
qui,
oui.
Qui nous détourne.
L'étude avec empathie, etc.
L'étude avec empathie. Mais vous voyez qu'on est quand même obligé de rajouter, parce que là on parle beaucoup, mais peut-être que c'est implicite, et donc il n'y a pas besoin d'en parler, mais on parle beaucoup de quantité.
Alors que, parce que la quantité, c'est toujours. Dans le monde des mitzvot, c'est tout est toujours quantifié. Parce que ça sert à rien. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu fais ça. Il faut dire, oui, qu'est-ce que je dois faire? On doit toujours donner une mesure.
Oui, non, c'était pas ça. C'était par exemple, on parle de l'étude, mais on dit, on parle de l'étude à tout moment, de quelque chose de. Ce que je comprends, mais on ne parle pas de qualité d'étude. C'est-à-dire que, on pourrait. J'imagine qu'il y a des gens qui étudie, mais encore que j'en sais rien. Qui passe à côté, quoi.
Oui, ça c'est possible, mais peut-être parce que c'est pas ça l'étude. Il faut se mettre d'accord sur ce que veut dire étude. Justement, si vous voulez, le problème c'est que la Torah ne dit pas étude. Elle dit en faire son affaire. Et en faire son affaire, c'est déjà une autre affaire.
C'est
une autre affaire en faire son affaire. C'est pas de l'étude seulement.
Est-ce qu'on pourrait dire quelque part, c'est une mise en pratique, mais pas en pratique comme l'étudiant qui va, par exemple, apprendre.